les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'émission d'aujourd'hui s'appelle les dérapeutes. Un mot qu'on a formé à partir de thérapeute et de déraper. On comprend vite. Ils sont thérapeutes, psychiatres, psychanalystes, psychologues, écoutants, confidents, professionnels, médiateurs ou juste médecins, soignants au sens large, et leur job, c'est d'écouter, comprendre, aider et soigner. Un jour, voilà qu'ils dérapent, ils dévient, ils perdent pied. Qu'ils le fassent volontairement, comme une vraie déviance, comme une utilisation abusive du pouvoir incroyable que certains thérapeutes acquièrent sur leurs patients, ou qu'ils craquent, qu'ils réclament soudain la parole, de l'attention, qu'ils sortent de leur rôle, de leur réserve. Un après-midi de mai 2007, raconte cette jeune femme à l'Express, nous étions presque à la fin de la séance quand tout d'un coup, mon psychanalyste s'est effondré en larmes. Il était amoureux d'une amie à moi et a commencé à me raconter qu'il avait reçu le matin même une lettre dans laquelle elle opposait un refus définitif à ses avances. Il hoquetait, il répétait en boucle « je ne sais pas quoi faire ». Et moi je restais silencieuse, tétanisée, incapable de réagir. Je suis sortie sans un mot. Psy déprimée, faux souvenirs induits, conduites déplacées qui peuvent aller jusqu'au viol, les possibilités sont nombreuses, mais qu'on se le dise bien, les cas heureusement rares. En plus, une loi votée en 2004, dont le dernier décret d'application date de 2012, réglemente désormais strictement l'usage du titre de psychothérapeute. Elle impose d'abord l'inscription des professionnels au registre national des psychothérapeutes et pour être inscrit, il faut suivre une formation en psychopathologie clinique. Seuls les médecins et les titulaires d'un diplôme niveau master mention psychologie ou psychanalyse peuvent accéder à cette formation. Aujourd'hui donc, ce sont des histoires de dérapeutes qui font exception, je le redis, certes, mais qui arrivent encore et méritent d'être racontées par Seam Boutata jusqu'à 14h sur France Culture, dans Les Pieds sur Terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Joanne, j'ai 43 ans et ça s'est passé il y a 15 ans. J'allais pas bien en fait, j'étais très mal psychologiquement, physiquement, j'étais anorexique, je mangeais plus. La vie était en enfer en fait, me lever, manger, voilà, j'étais un légume. Donc ça faisait 3 ans que je vivotais, que j'avais cet état en fait qui avait été provoqué par un choc émotionnel alors que j'avais 21 ans, que j'étais à Paris et que voilà, c'était l'explosion. Donc c'est très difficile de trouver des thérapeutes quand on n'a pas d'argent parce que j'avais pas de soutien familial, donc j'étais vraiment seule à Paris et donc voilà. Donc après je me suis retrouvée par des circonstances dans les Cévennes et j'étais toujours dans cette recherche parce que j'allais toujours pas bien, mais bon, j'arrivais un petit peu à travailler, mais c'était très compliqué en fait. On m'a présenté ce psychiatre, médecin psychiatre. Il était président de Narcotique Anonyme, il était médecin dans un CMPP. En fait, je savais pas trop de choses sur sa vie à Paris, vu que moi j'habitais ici, juste que voilà, les gens le connaissaient depuis plusieurs années, qu'il avait aidé des gens qui étaient en psychiatrie, qu'il les a aidés à sortir de l'HP. Donc voilà, il passe à la retraite, il a une 60aine d'années, il est en train de faire sa transition, il décide de prendre sa retraite ici. Voilà, il y avait tout un espèce d'univers autour de lui qui pouvait penser que on ne craignait rien en fait, donc que c'était quelqu'un vraiment d'humain. Voilà, moi je cherchais, mais j'avais pas les moyens de me soigner. Et là, tout d'un coup, il y a cet homme qui accepte de s'occuper de moi. Donc on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure de la journée si on n'était pas bien. Donc voilà. Et puis dès le départ, il m'avait donné plein de photocopies avec. Donc voilà, des crises de spasmophilie, ce que c'était. En fait, tout ce qu'il me donnait, j'avais tous les troubles qui... Je me sens pas bien. Ah, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment... je me souviens le jour où il a décidé qu'il me prenait sous sa coupe, on va dire. Pour moi, ça a été un soulagement. C'était enfin quelqu'un qui va s'occuper de moi et je vais pouvoir me sortir de cet état. Donc tout va bien, quoi.
Thank you.
Alors moi, j'avais entendu parler de séance. Donc je savais pas trop ce que c'était. Donc voilà, je me souviens, c'était pendant les vacances de Noël. Et là, il me dit, on va faire une séance. Donc je suis allée faire ma séance. Donc j'étais dans une pièce avec rien. Et puis j'étais allongée. Et puis lui était derrière moi. Et puis... comme une vraie séance de psychanalyse, voilà. Donc en fait, j'ai pleuré pendant 2 heures. J'ai pas pu sortir un mot, j'ai juste lâché en fait la tension. Comme une vraie séance de psychanalyse, voilà. Donc il y a tout un discours en fait sur la psychanalyse, sur Freud, sur la sexualité. Si on est dans cet état-là, c'est qu'on a une sexualité pas épanouie. Alors là, je vous le dis crûment, mais c'est tout est amené avec finesse, tout est amené. On commence à faire du yoga. Donc au départ, on est tout habillé. Et puis, on parle de nos partenaires, de comment ça se passe, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. Et puis, on dit que c'est pas forcément le top. Donc, vous voyez, c'est à cause de ça que vous allez pas bien. Donc, c'est là où ils nous demandent de nous déshabiller pour qu'on fasse du yoga, en fait, nu, quoi. Donc là commencent les séances de yoga nu avec tout un travail sur la sexualité, donc des positions avec ressentir son vagin, enfin voilà, donc ça peut durer 3 heures. Donc on se rencontrait en début d'après-midi et on passait toute l'après-midi ensemble. Enfin au départ c'était comme ça, puis après c'était toute l'après-midi plus la soirée. Ils nous consacraient du temps. Donc après il faut rendre l'énergie qu'il nous a donnée. Donc, il y a toujours une pratique sexuelle à chaque fin de séance, en fait. Ou alors, si on ne la donne pas dans la séance, il faudra qu'on aille passer une soirée avec lui pour faire l'amour avec lui, pour rendre ce qu'il nous a donné pendant la séance, quoi. Donc, vous avez le choix. Soit vous le faites tout de suite, soit vous attendez un peu. Voilà, les dérives, elles sont arrivées comme ça. On est plusieurs jeunes femmes, on est 4 jeunes femmes. On se connaît, on se côtoie. On parle plus ou moins de ce qui se passe. Enfin, je pense que les premières fois où on est nus et tout, et toi, c'est comment ? Donc on sait que l'autre, elle a fait pareil. Donc bon, peut-être que c'est ça. Et puis le médecin nous dit que même les anciennes, elles sont aussi passées par là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles vont très bien. Et que quand on va se promener... on parle de sexualité, on va à la rivière, il faut se mettre nu à la rivière pour épanouir notre corps, voilà, on se libère de nos tensions, de nos frustrations, c'est plein de petites choses comme ça qui font que, la première fois on n'ose pas, mais on voit que les autres elles le font, donc voilà, on va le faire. Il y a une espèce de plus ou moins stimulation qui est là en fait, c'est que les autres font, donc. Et puis, il y a des espèces de jalousie de femmes qui sont là. Et puis, c'est à celle qui sera la première, la préférée. Et puis, on va toutes mal. Toutes celles qui sont là, elles ne vont pas bien. Alors, le moment où ça fait un déclic, ça a été une séance. En fait, on avait fait un séjour avec beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes aussi. Alors, les hommes n'avaient pas du tout le même statut. Les hommes ne font pas de séance de yoga. Voilà, les hommes convoitent les femmes. Ils sont là, alors il y en a qui sortent d'HP, il y en a qui sortent de Narcotiques Anonymes, il y en a qui... Puis bon, voilà, il y avait l'histoire, tout était basé sur la sexualité, donc ça brassait des neurones, quoi. Donc à la fin de ce séjour, j'ai été accusée d'avoir dragué un des hommes qui était, c'était le plus joli, le plus beau, le plus que toutes les femmes convoitaient. Moi, je ne le convoitais pas du tout, c'était juste un pote. Mais comme j'étais à l'aise avec... plus à l'aise que les autres avec les hommes, du coup ça a fait tout un pataquès dont je n'étais pas au courant, mais quand je suis arrivée en séance, je m'en suis aperçue en fait. Et donc il m'a dit que j'avais provoqué cet homme et que du coup il fallait que je sois punie en fait. Et donc j'ai reçu des fessées. Donc on est à 4 pattes, nus, et on se recule vers lui pour demander la fessée en fait, attribuée à la main. Voilà, donc bonne humiliation. Et comme le séjour avait duré 10 jours, en fait, il a fallu qu'à chaque séance, je demande une fessée, parce que je m'étais mal comportée. Et je pense que là, ça a été vraiment déclenchement, en fait, de me dire, mais il y a quelque chose qui dérape. Après, quand on se rebelle, en fait, qu'on n'est pas d'accord, on est exclu du groupe. On fait partie des persona non grata. On n'est plus invité aux soirées. On n'est plus invité parce que c'est quelqu'un qui avait un statut médecin, qui avait un statut dans le village assez honorable, on va dire. Donc, il organisait des soirées avec des thèmes. Donc, tout d'un coup, c'est le désert. Et puis, vous... Moi, j'ai un ami qui m'a raconté que... Il lui avait raconté que je faisais la prostituée à Montpellier. Enfin, voilà, il nous dénigre, en fait, vis-à-vis de la population. Donc, voilà, du coup, ça met une ambiance un peu lourde. Après, il a fait d'autres dérives, parce qu'il a dérivé sur des enfants et des jeunes filles de 14 ans. Du coup, il y a eu un gros procès, et j'ai témoigné, je me suis portée partie civile, en fait. Et il a pris 13 ans. Voilà, donc là aujourd'hui il est en prison. Et du coup d'avoir été reconnue en fait victime, eh ben ça fait du bien. C'est juste ça fait du bien. Et de témoigner, ça lave en fait. Après le témoignage, en fait, je me suis vraiment sentie propre. On se sent propre.
Je m'appelle Sophie, j'ai 49 ans, je suis mère au foyer. Donc j'avais 24 ans, je me cherchais, j'étais pas très bien dans ma peau, un peu isolée, ne sachant pas quelle profession exercer après déjà pas mal d'années d'études. Et en fait, j'ai été véritablement happée par cet homme et par sa femme qui se disait thérapeute. C'était une relation familiale puisque c'était ma belle-famille par alliance, mon père s'étant remarié avec la petite sœur de ce monsieur-là, que c'était mon propre père qui m'avait dit bah, « va le voir ». Il m'a dit que c'était gratuit pour la famille. Je l'ai rencontré, lui, de façon plus personnelle, puisque je ne savais pas quelle orientation prendre pour ma licence de psychologie. Et comme il disait partout qu'il avait une maîtrise de psycho, je me suis dit bah, « je vais lui demander son avis ». Elle m'a fait entrer dans son bureau, assise en face de lui en position thérapeute-patient. Et très rapidement, il m'a fait comprendre que j'étais très mal en point et que lui recevait des gens du monde entier et que en 3 semaines de sa thérapie, bah, je serais transformée, que j'aurais plus d'angoisse existentielle et que ma vie changerait du tout au tout et que je découvrirais ce qu'est le bonheur. Donc il m'a expliqué un peu, enfin, quelques éléments de la thérapie très succinctement en disant que c'était une recherche de la souffrance du passé, que toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans sa vie d'adulte, ça vient de la petite enfance, en particulier de 0 à 6 ans, et qu'en allant rechercher toutes les scènes, toutes les souffrances de cette période de la petite enfance, et en les revivant et en évacuant la souffrance qui s'y trouve, eh bien on met de côté tous ces problèmes et on va bien dans le présent. Voilà, donc il me dit, bah, c'est le problème, c'est que ça coûte cher. Et donc, à l'époque, c'était 1200 francs de l'heure. Sachant que la thérapie, c'est en continu sur 3 semaines, 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés compris, et 6 à 7 heures par jour, voire plus. Donc il me dit, bah, il faut 150 000 francs disponibles en espèces pour pouvoir être sur la liste d'attente et espérer avoir une place dans son cabinet pour cette thérapie révolutionnaire. Donc je suis sortie de cet entretien quand même séduite, parce que j'avais été écoutée, parce qu'il y avait une ouverture, parce que j'avais pas de raison de me méfier. Donc ça me faisait envie, mais un petit peu comme quelque chose quand même d'inaccessible, parce que comment j'allais faire pour réunir cette somme-là ? Bon, évidemment, moi j'étais étudiante à l'époque, je travaillais pas, ou je faisais des petits boulots de babysitting, donc j'avais pas du tout d'argent. Et donc, je disais, bah, si vraiment tu veux sauver ta peau, tu trouveras le moyen, donc il faut demander de l'aide autour de toi. Et si les gens t'aiment, ils te prêteront. Ça te permettra aussi de faire le tri entre les gens qui t'aiment et qui te font confiance, et puis ceux que tu crois qu'ils t'aiment, mais en fait, ils t'aiment pas parce qu'ils veulent pas t'aider. Donc je suis arrivée à contacter plus d'une cinquantaine de personnes. Et donc le prêt le plus important que j'ai eu, c'est une de ses belles-sœurs, qui était elle aussi adepte, 50 000 francs. Et puis en dernière minute aussi, mon père, qui finalement a fait un emprunt, contraint et forcé par ce couple-là, qui lui a dit, mais enfin, tu peux pas laisser ta fille, il faut sauver sa peau, donc elle t'a demandé ça, tu fais confiance, c'est ta fille, voilà. Donc péniblement, je suis arrivée à réunir les 150 000 francs et à prendre ma place sur la liste d'attente, comme on dit. Donc il m'avait bien précisé qu'il fallait libérer 3 semaines totalement. Donc moi, j'étais étudiante, j'ai prévenu... quelques amis autour de moi qui récupèrent mes cours. J'ai dû organiser pour les examens, donc j'ai repassé après. J'ai dû prendre un hôtel, parce qu'il disait qu'il ne faut pas rester dans son environnement habituel et puis ne pas risquer d'être distrait par la vie autour, parce que là, tu as 3 semaines pour sauver ta peau et que le plus important, c'est de se concentrer sur tes heures de thérapie et sur tes nuits aussi, avec interdiction de parler à qui que ce soit, de répondre au téléphone, voilà. Donc le premier jour, rendez-vous était donné à 7h30 le matin. Et puis il m'a fait installer derrière son bureau, lors des entretiens. Et puis il m'a dit, voilà, il y a quelque chose que tu ne sais pas, c'est que la thérapie se passe nue. Tout le monde le fait, ça pose pas de problème. De toute façon, moi, je ne suis pas là en tant qu'homme, je suis là en tant que thérapeute. Je ne te regarde pas en tant qu'homme. Donc, mais tu es libre, tu fais comme tu veux. Mais tu risques de perdre 60% des bénéfices de ta session. Voilà, je me suis décomposée, parce que, évidemment, il s'était bien gardé de le dire avant. Et puis, quand vous avez trimé pendant plusieurs mois pour récupérer 150 000 francs, quand vous avez tout organisé autour de vous pour libérer ces 3 semaines, quand vous avez eu cette place, donc une place exceptionnelle, il n'y a pas trop le choix, quoi. On se dit, si les autres le font, je vais le faire. Donc, c'était 7h30 du matin, les volets étaient fermés, c'est un peu la pénombre. Il m'a indiqué le divan qui était un peu plus loin. Il a installé un drap sur le divan pendant que je me déshabille. Donc, on y va, quoi. J'ai 4 ans. J'ai fait un joli dessin, je le porte à ma mère pour qu'elle s'extasie devant, elle me félicite, etc. Et puis elle n'a pas le temps sur le moment, je suis triste, mais je repars, je dis rien. Et en fait, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je suis triste. Non, mais plus que ça, t'es en colère, non? Oui, je suis en colère, mais tu la détestes, non? Oui, je la déteste. Dis-lui alors que tu la détestes. Je te hais, maman, je te hais. Vas-y, dis-lui plus fort, etc. Regarde, tu te souviens vraiment de moments où tu t'es sentie aimée, où on t'a prise dans les bras? Quand vous êtes à 2 ans, vous ne vous souvenez pas? Vous n'avez pas de souvenirs? Non, je ne me souviens pas. Mais en revanche, là, le dessin, tu t'en souviens? On ne se souvient pas trop, mais à force de dire, cherche. Alors, il met en place plusieurs moyens pour arriver à soi-disant retrouver ces éléments du passé. D'abord, la privation de sommeil, c'est-à-dire que donc, la journée de thérapie, ça commence à 7h30. Allongée nue sur un divan jusqu'à 13-14 heures. Ensuite, vous rentrez à votre hôtel. Vous faites un compte-rendu, c'est-à-dire un écrit de tout ce que vous avez revécu le matin, soi-disant pour revivre encore, évacuer encore à nouveau la souffrance, si jamais il en reste dans les scènes revécues avec lui le matin. Vous mangez très frugalement parce que ce qu'on recherche, c'est la souffrance et pas le plaisir. Donc vous mangez juste le minimum. De fait, ça devient un seul repas par jour. Ensuite, vous dormez très courtement, à la durée indiquée, donc 3 ou 4 heures, de 20h à minuit. Et ensuite, on travaille toute la nuit sur la recherche de scènes de la petite enfance. Plus on avance dans la thérapie, moins on a de sommeil, parce que c'est 3 ou 4 heures par nuit, bah ça s'accumule. Et au bout du troisième jour, on ne sait plus trop qui on est, où on est, et on perd un peu ses repères, on perd sa maîtrise de soi, son discernement, son esprit critique. Et là, on arrive rapidement à ne plus contrôler ce qu'on vit, ce qu'on dit. Il dit que c'est important dans la thérapie, c'est-à-dire que ça fait tomber les défenses et ça autorise tout ce qui est inconscient à remonter. Et plus ça va, plus on avance, plus on est en situation de faiblesse. On est tout le temps centré sur ses sentiments négatifs, etc. Donc on finit par penser, vivre et dire n'importe quoi. Est-ce que quand ton père t'a pris dans les bras à tel moment, est-ce que regarde bien s'il n'y a pas eu autre chose. Va voir, respire, va voir dans la scène. Est-ce qu'il t'a pas caressé à tel endroit? Et puis à force d'insister, et encore une fois, vous savez plus où vous en êtes, donc oui, peut-être. Forcément, il avait du désir, enfin. Quand ma mère a décédé, mon père m'a pris dans ses bras, quoi, donc. Mais donc, il transforme tout, en fait, pour essayer d'introduire une relation sexuelle entre le père et sa fille. Et puis, quand vous ouvrez une porte, il n'y a plus de retenue, quoi. Il y a le père, il y a les oncles, les cousins, enfin, bon, c'est. Et puis si je lui demandais à mon père, tu peux pas parce que c'est tellement horrible ce qui t'a fait que il s'en souvient pas et il a refoulé de toute façon parce qu'il pourrait pas vivre, donc ça ne sert à rien de lui en parler, c'est trop horrible. Et puis les scènes, on finit par vraiment les imaginer et les revivre. Une scène d'avortement, une scène où on est tapé, vous imaginez, vous racontez. Un peu comme dans un état second, un peu comme quand on rêve, on se dit rêve éveillé. Quand je suis arrivée, il y avait déjà une jeune femme, un peu plus âgée que moi, qui était sous emprise depuis quelques années. Bon, on était une petite dizaine et on se voyait tous les week-ends. En fait, c'est mis en place un peu une surveillance mutuelle de tous les adeptes. C'est-à-dire que si on vivait quelque chose en dehors d'eux, ce qui arrivait quand même assez rarement, eh bien, il suffisait qu'il y en ait un qui fait un compte-rendu et pas l'autre. Bah, du coup, il disait, mais c'est bizarre, tu ne m'as pas fait de compte-rendu sur la rencontre que tu as eue avec un tel. Ça sera important quand même pour savoir exactement où tu en es, ce qui va pas, là où il faut s'améliorer, etc. Donc, on n'avait plus de vie personnelle, privée, intime, plus rien. On était poussé à travailler énormément pour que, au niveau professionnel, ça marche bien et qu'on ait de bonnes rémunérations. Il n'y a plus de temps et plus d'espace pour penser, prendre de la distance. D'autant plus qu'il m'a isolé aussi complètement de mes relations antérieures et de ma famille, notamment de mon père. En disant très habilement à la fin de la session, bon écoute, voilà, t'es en devenir d'être très solide, mais il y a une petite période où il faut attendre que le ciment prenne. Donc pendant cette période-là, je conseille à tous mes patients, et donc tu feras ce que tu voudras, de ne pas reprendre tout de suite contact avec tes relations d'avant, qui risquent de te ramener dans ton état antérieur et de ne pas vouloir voir la belle personne que tu es devenue grâce à ta thérapie, parce qu'ils seront jaloux. Donc à chaque fois qu'on est en relation, c'est conflictuel. Donc tu vois que t'es pas prête. Tu vois que ça te fait du mal. Tu vois, tu pleures. Privilégie les écrits. Donc tous les écrits, toutes les lettres qu'on reçoit passent chez lui. Il les lit. Les réponses, on fait des brouillons, on les passe en compte-rendu, on les paye et tout passe par son filtre, quoi. Au début, les comptes-rendus étaient gratuits. Et puis ensuite, c'est devenu payant à 50 euros la page recto-verso. Donc j'écris plus de 3000 pages en 12 ans.
Et puis aussi, il faisait payer les fautes d'orthographe en disant bah, ça t'entraîne à respecter le lecteur et puis bah, ça peut te sauver la vie, entre guillemets. Si tu envoies une lettre de candidature avec des fautes d'orthographe, bah, tu ne seras pas prise. Donc il arrivait quand même que j'ai 50 euros à payer en plus pour une faute d'orthographe. Et pour d'autres membres du petit groupe, c'était des sommes très importantes. Et donc un jour, j'ai dit non, mais ça suffit, j'en ai marre, je ne paye plus mes fautes d'orthographe. Ah bon ? Tu contestes la méthode alors ? Donc tu ne me fais pas confiance ? Bon ben au revoir. Et puis il raccroche. Et puis là, bah, vous êtes tout seul. Plus de famille, pas d'amis, pas de relation normale en dehors de lui et du petit groupe. Mise en quarantaine. Donc, bah, au bout d'un moment, on replonge. Il n'y a pas d'autre issue.
J'ai dépensé plus d'1 500 000 francs sur 12 années, 238 000 euros. Je m'en suis sortie par la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse, c'est un très bon moyen parce que justement, il y a autre chose qui vient à la place. Et donc, ben, moi, c'est comme ça. Il m'a fallu à peu près 5 mois entre la rencontre de celui qui est devenu mon mari et puis la sortie vraiment. Petit à petit, il m'a fait douter d'abord sur la question de l'argent, en disant mais 320 euros de l'heure. Mais même les plus grands psychanalystes n'atteignaient pas des sommes aussi importantes. Donc voilà, petit à petit, j'ai arrêté de faire des comptes rendus.
Alors évidemment, j'ai déposé plainte en 2007 et il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et puis à 50 000 euros d'amende et 100 000 euros de dommages et intérêts.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et Les Dérapeutes, un reportage de Séam Boutata réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Johan, à Mathilde et à Sophie, à Franck Michel et à Claude Delpech. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre.